Énergie. Tribu. Julien Magnolet.
Bonjour et bienvenue dans Tribu. C'est une enquête de la Banque Nationale Suisse qui le révèle ce matin. Les Suissesses et les Suisses utilisent de moins en moins de liquide pour effectuer leurs paiements. Les cartes et les applications ont, elles, de plus en plus la cote. Et ce constat est certainement encore plus vrai pour les jeunes. Une étude menée par la HESSO Valais essaye justement de mieux comprendre les pratiques des 18-29 ans en matière d'argent virtuel. Et j'ai le plaisir d'accueillir ce matin dans ce studio deux membres de cette étude, Caroline Anchaud et Sophie Bauda, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Ouh là, joli, bravo. Les deux, c'était très beau. Alors Caroline Anchaud, vous êtes sociologue, vous enseignez à l'Université de Fribourg et à cette HESSO Valais, donc qui est basée à Sierre. Et Sophie Bauda, vous êtes de votre côté psychologue, collaboratrice scientifique à cette même haute école. Et le titre de votre recherche s'appelle « Les jeunes et l'argent dématérialisé ». Alors Caroline Anchaud, pourquoi cet intérêt pour les jeunes et l'argent numérique ?
Alors, on avait fait une étude à l'université de Fribourg dans les années 2015 autour des jeunes et de l'argent. Et finalement, là, la question de l'argent dématérialisé, d'Internet se posait beaucoup moins. Et avec l'évolution des technologies, l'offre de plus en plus importante qu'il y a en matière de sites Internet pour acheter, pour vendre, ou pour les propositions des banques pour gérer l'argent, il nous avait semblé intéressant de développer ça et de réfléchir finalement à ces nouveaux enjeux qui se posent, parce que finalement on se rendait compte que en ce qui concerne l'argent matériel, les parents étaient centraux dans ces questions d'apprentissage, accompagnaient les jeunes par rapport à ces apprentissages-là, et puis par rapport aux nouvelles technologies, les jeunes sont présentés comme des experts des nouvelles technologies, les parents ou certains en tout cas d'entre eux un petit peu moins experts, on va dire, ou en tout cas ont appris en même temps que les enfants, et on s'est posé la question finalement, mais comment ces jeunes-là se saisissent d'Internet, de cet outil-là? Est-ce qu'il y a d'autres enjeux? Est-ce qu'ils sont, parce que dans la littérature on les présente à la fois comme des experts des outils digitaux, et puis en même temps particulièrement vulnérables par rapport aux nouveaux risques, et donc c'est la question qui nous a intéressés. Mmh. Qu'on a commencé à explorer à l'université de Fribourg avec mes étudiants dans le cadre d'un séminaire l'année passée. Et puis ce séminaire a débouché sur un projet de recherche à la HESSO dans lequel Sophie intervient en tant que collaboratrice scientifique, où là notamment on a eu l'occasion d'analyser aussi les données de l'Office fédéral de la statistique. Et ça c'est tout particulièrement le rôle de Sophie dans cette recherche.
Alors Sophie Bauda, vous avez eu, toute l'équipe qui a travaillé là-dessus, vous avez eu le nez creux parce que vous avez commencé cette étude, je crois, en tout cas, à dépiauter ces chiffres de l'OFS avant la pandémie. Il y a eu quand même cette pandémie où on l'a tous remarqué. On s'est mis un peu on ne devait plus toucher le cash. C'était trop dangereux, semble-t-il. Donc, on s'est beaucoup mis à utiliser. J'imagine que les jeunes aussi. Est-ce que vous avez fait juste, donc, avant, vous avez fait des entretiens et ensuite, après aussi, parce que j'imagine qu'il y a eu peut-être déjà un changement.
Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une première série d'entretiens qui ont été réalisés justement par les étudiants de l'Université de Fribourg, qui est, les choses ont fait que c'était pendant le premier confinement, donc du printemps 2020. Et puis là, effectivement, il y a des choses qui ont été observées, notamment en termes de modifications et de re-questionnements par rapport à la consommation en ligne, notamment. Mais avec des différences en fait selon les utilisations que les jeunes faisaient avant la pandémie. Certains jeunes ont plutôt réduit leur consommation en ligne en pensant notamment aux travailleurs qui devaient s'occuper des commandes, aux postiers qui devaient s'occuper de les livrer aussi à domicile. Et puis il y a d'autres jeunes qui eux étaient plutôt réfractaires par rapport au numérique. Et puis qui ont bien dû s'y mettre aussi notamment en payant par exemple dans les magasins avec le sans contact, ou bien en commandant aussi en ligne, quitte à faire appel en fait aux cartes de crédit ou de débit de leurs parents ou de leurs proches.
Voilà. Sophie Bauda, ça montre aussi qu'on peut voir les jeunes comme un monde homogène. Et ce que vous démontrez dans cette étude, c'est qu'il y a vraiment un panel assez différent. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les profils peut-être qu'il existe en matière d'usage d'argent sur le net chez les jeunes?
Oui, alors c'est vrai que souvent on appréhende ces données statistiques aussi de l'Office fédéral de la statistique. On les appréhende comme un tout global. Et puis en fait, quand on y regarde un petit peu plus près, on se rend compte que les jeunes ont des pratiques très différentes. Et c'est ce qu'on a pu aussi voir avec les analyses secondaires qu'on a pu réaliser sur l'étude, avec les données de l'étude Omnibus. qui est réalisé par l'Office fédéral de la statistique. On a pu utiliser ces données et on a montré en fait des pratiques très hétérogènes et des profils d'utilisateurs très différents, comme vous le mentionnez. Certains jeunes, ce qu'on voit, c'est que la majorité des jeunes en fait utilisent Internet pour des activités de consommation. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très ancré chez les jeunes, mais avec des fréquences aussi différentes. Il y a certains consommateurs, jeunes consommateurs qui vont aller régulièrement en ligne pour faire des achats, tandis que d'autres vont aller de temps en temps quand ils en ont besoin. Et puis ce qu'on remarque aussi avec ces consommateurs-là, c'est qu'il y a aussi des pratiques de gestion. Mais ce que les entretiens ont pu montrer par rapport à ces pratiques de gestion, c'est qu'elles sont surtout au service de la consommation, c'est-à-dire que le jeune va par exemple utiliser le banking ou une carte de crédit pour consommer en ligne, et moins justement pour des questions d'épargne sur le long terme.
Bon, peut-être qu'il n'a pas encore beaucoup d'argent, le jeune ou la jeune, à ce moment-là. Est-ce que vous avez, Caroline Anchaud, regardé quelles transactions il faisait dans le sens, il y a de l'argent qui bouge, que les jeunes font bouger, mais est-ce que vous avez pu regarder précisément, en gros, où ils dépensaient de l'argent?
Où exactement? Enfin, c'est plutôt des achats.
Pour quelles activités? Oui, okay, enfin, est-ce que c'est pour le loisir? C'est pour le voyage? Mm-hmm. Est-ce que c'est pour payer, je ne sais pas, leurs études?
Alors, en fait, on a distingué l'achat de la gestion des ventes. Donc, ce qui concerne les achats, on a moins ces informations au niveau statistique, mais par contre, on a quelques informations dans les entretiens. Et effectivement, il y a tout ce qui concerne les biens de consommation, comme les vêtements, comme les loisirs aussi. Et on voit typiquement que la pandémie, il y a eu des achats, par exemple, pour des loisirs. Il y a des achats d'abonnements pour des chaînes en ligne, des jeux en ligne, donc ça a pris une certaine ampleur. Et puis donc c'est principalement ce type d'achats qui sont faits, donc loisirs et puis consommation, vêtements et autres essentiellement.
On a tendance à dire que les jeunes, là si on regarde c'est les 18-29 ans, on les appelle aussi les digital natives. Certains c'est limite, 29 ans peut-être, mais c'est des gens qui sont nés avec Internet, qui connaissent tous les codes, etc. Mais vous montrez, Sophie Bouda, qu'il y a quand même une partie qui était en tout cas, jusqu'à la pandémie en tout cas, vraiment désintéressée. Est-ce que c'était par idéalisme ou juste dans le fond, ils ne voyaient pas à quoi ça pouvait servir?
Alors, ce qu'on a pu voir dans l'étude, en fait, c'est que il y a déjà deux choses. La première chose, c'est que pour pouvoir aller sur Internet, il faut avoir certaines compétences, des compétences numériques. Et aussi, pour pouvoir réaliser des activités financières en ligne, il faut aussi des compétences financières. Donc, c'est vrai qu'on parle de cette question de fracture numérique digital divide. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que, oui, les jeunes peuvent avoir accès, facilement, en tout cas maintenant, à Internet et aux services qu'Internet offre, mais il faut aussi avoir les compétences pour les utiliser. Et puis l'autre chose par rapport à ce qu'on a nommé dans l'étude, les désintéressés, plutôt réfractaires aussi à Internet, c'est plus pour des raisons, en fait, des valeurs personnelles, anticonsuméristes ou bien aussi écologistes, notamment quand on pense aux commandes en ligne. C'est vrai qu'il y a tout un débat là autour sur l'empreinte carbone des paquets envoyés et retournés à l'entreprise.
Est-ce que l'aspect, de traçage pèse aussi pour certains jeunes? On sait que le cash a un grand avantage, c'est qu'on ne sait pas trop où il va, c'est facile, personne ne peut contrôler. Tout ce qui est numérique, ça laisse des traces partout. Est-ce que ça, c'est remonté durant l'enquête que vous avez faite?
Alors, ce qu'on observe, c'est que chez les plus précaires, par exemple, ils préfèrent utiliser l'argent matériel parce ils se sentent plus à l'aise, en fait, à avoir des billets, de la monnaie, vraiment de l'argent physique. Et ils sont moins à l'aise, justement, à gérer, en fait, tous ces chiffres en ligne où ils ont l'impression d'avoir moins d'emprise, en fait, sur cet argent numérique, plutôt. Donc, c'est ça qu'on observe.
C'est intéressant, effectivement, ce besoin de toucher, etc. Vous évoquiez aussi, Caroline Anchaud, le rôle des parents, parce qu'on sait que les parents, pour plein de choses dans la vie, ont ce rôle un peu prescripteur, explicatif, etc. Et là, ils sont potentiellement un peu démunis. Ils peuvent jouer de l'argent avec de l'argent de poche classique, mais là, ils ne savent plus trop comment faire, c'est ça?
Effectivement, il y a deux types de parents. Il y a les parents qui ont, en tout cas pour la période d'âge, enfin les âges qu'on avait, donc 20-29 ans, qui ont appris en même temps que leur enfant, donc ils les ont accompagnés, parfois les parents complices qui les aidaient à acheter en ligne, qui leur prêtaient leur carte de crédit ou leur carte de débit pour faire des achats en ligne. Les parents prescripteurs qui justement informaient les enfants des éventuels dangers mais sans forcément les connaître eux-mêmes. Et on voit que les parents accompagnent beaucoup plus les enfants par rapport à la gestion. Là, ce sont souvent les parents tout ce qui est e-banking qui peuvent informer les enfants, mais tout ce qui concerne effectivement les achats, là on voit qu'il y a des différences selon les parents. Et généralement, ce qu'on peut voir notamment dans les entretiens, c'est que les parents sont peut-être plus présents aussi dans les milieux les plus favorisés, où il y a une habituation d'aller sur Internet aussi de la part des parents, et que par contre, chez les jeunes des milieux précaires, parfois ils doivent se débrouiller eux-mêmes, tester eux-mêmes, faire leurs expériences eux-mêmes, et parfois quand on apprend par essai et erreur, bah forcément, hein, qu'on soit un jeune d'un milieu social favorisé ou moins favorisé, bah parfois on se plante, ça nous arrive de commander des choses qui sont pas forcément d'excellente qualité, il y a des enjeux aussi de piratage de données, etc. Et là, on voit que typiquement, quand il y arrive ce type de mésaventure, eh bien, un jeune qui vient d'un milieu favorisé pourra peut-être compter sur l'aide d'un parent pour rembourser une facture ou des frais de douane qu'il n'avait pas pensé en commandant dans un pays lointain. Alors qu'un jeune d'un milieu un peu moins favorisé, ça va être plus compliqué pour lui et ça peut avoir des conséquences plus lourdes.
Ça leur arrive, c'est remonté jusqu'à vous, ces sites chinois qu'ils n'avaient peut-être pas maîtrisés, où ils pensaient parfois qu'ils commandaient juste à côté, puis ça vient du bout du monde avec des frais exorbitants. Il y a des expériences comme ça qui remontent jusqu'à vous?
Oui, tout à fait. On voit là aussi la capacité des jeunes à faire preuve de réflexivité, vraiment d'apprendre par la pratique. Et typiquement, il y a des exemples, un certain nombre de jeunes qu'on a rencontrés nous parlaient d'achats qu'ils ont fait notamment en Chine sur des sites chinois extrêmement bon marché. Ils ont fait quelques expériences. Ils se sont rendus compte effectivement que soit c'était très bon marché de très mauvaise qualité, soit effectivement qu'il y avait d'autres frais auxquels ils n'avaient pas pensé. Et on voit tout ce travail, cet apprentissage qui se fait progressivement et toutes ces compétences aussi qui s'acquièrent par la pratique, par le fait de tester soi-même. Et justement, quand on n'a pas les parents pour nous accompagner ou pour nous dire ce qu'il faut faire, eh bien on fait soi-même, on demande à des copains, et là on voit que le rôle des pairs par exemple, ou des communautés en ligne, on va se renseigner en ligne, joue un rôle beaucoup plus important que quand on a fait notre étude sur l'argent matériel, où là les parents jouaient vraiment le rôle central.
Caroline Anchois et Sophie Baudin, nous parlons de la manière dont les jeunes gèrent leur argent en ligne. On écoute Angèle et on vous retrouve juste après.
Tribu, 11h, 11h30 sur la première.
Tout le monde, il veut seulement la thune. Et seulement ça, ça les fait bander. Tout le monde, il veut seulement la fame. Et seulement ça, ça les fait bouger. Bouger leur cul le temps d'un verre. Photo sur Insta, c'est obligé. Sinon, au fond, à quoi ça sert? Si c'est même pas pour leur montrer. Et puis à quoi bon? T'es tellement seul derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens. Mais tu les laisses tous indifférents. Oh. Partie de ces gens-là, rassurés quand les gens ils m'aiment. Et si c'est très superficiel, tout le monde il veut seulement la thune.
Tout le monde il veut seulement la thune.
Et seulement ça, ça les fait bander.
Tout le monde il veut seulement la thune.
Tout le monde il veut seulement la fame. Et seulement ça, ça les fait bouger.
Tout le monde il veut seulement la fame.
Et puis à quoi?
Seulement la fame.
Mais tu les laisses tous indifférents.
Seulement la fame.
À quoi bon? Hey, oh, 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 oh.
Angèle Latune. Eh ben, on parle de thunes justement dans Tribu ce matin, mais de thunes numériques, on peut l'appeler comme ça. Et on regarde comment les jeunes des 18-29 ans gèrent leurs thunes sur Internet avec les moyens qu'on a désormais à disposition. On évoquait, Sophie Bauda tout à l'heure, la question de l'argent de poche. C'est vrai qu'on se souvient, des fois c'était une thune par semaine, ça dépend des années, hein, mais bon bref, puis les enfants géraient ça. Est-ce que maintenant, l'argent de poche devient aussi numérique, on se twint ou on s'envoie par je sais quel système de... Est-ce que les parents fonctionnent comme ça ou l'argent physique est encore la règle?
Alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément eu ça comme information dans l'étude. Ce qu'on s'est surtout rendu compte, c'est que ces nouvelles applications, notamment comme Twint, sont un moyen vraiment pour les jeunes d'apprendre et aussi de socialiser avec leurs pairs. Et ils ont l'habitude justement d'utiliser ce type d'application pour se transférer de l'argent avec leurs amis. Je me souviens des témoignages qu'on a pu avoir de la part de jeunes où ils disent voilà, ils ont commandé à manger en ligne et puis c'est vrai qu'il y a une personne qui a payé.
Qui a le compte.
Et puis ensuite, les autres twint aussi pour rembourser en fait.
Mais ça, on l'entend beaucoup, hein, même dans les tables de bistrot, c'est moi qui paye, puis tu me repayes, etc. Et ça, c'était pas forcément facile, il fallait rien dans ses poches avant aussi, si on avait bien une pièce de 5 francs pour pouvoir rembourser à ses amis. Caroline Anchaud, il y a la question dans le fond des inégalités. On parle beaucoup d'inégalité lorsqu'on parle d'argent. Est-ce que ça se retrouve dans le fond avec cette gestion en ligne de l'argent, ces inégalités-là?
Oui, on voit que les plus favorisés vont beaucoup plus utiliser Internet pour leurs activités économiques. Donc, que ce soit pour gérer l'argent, pour faire des achats. Et ça, c'est aussi un... le fait d'avoir de l'argent permet aussi justement de le placer, de le gérer et d'acheter un certain nombre de choses. Donc, effectivement, il y a ce rapport-là. On voit aussi que plus on est aisé, plus on a des compétences, plus on va sur Internet et plus on acquiert des compétences justement dans cette économie digitale et que finalement, les plus en danger ou les jeunes qui encourent le plus de risques sont ceux qui vont de temps en temps sur Internet, donc qui utilisent moins fréquemment Internet que les autres. Et contrairement à ce que nous, on imaginait en se disant peut-être plus on va sur Internet et plus il y a de risques de faire face à différents dangers, on voit que c'est plutôt l'inverse en fait. Et on présuppose, mais si on doit encore le vérifier, que selon quand on commence justement, quand on fait ses premiers essais, c'est là qu'on a aussi le plus de risques.
Le plus de risques, effectivement. On a parlé de cette étude qui s'est faite en deux mouvements, en tout cas, donc une partie avant la pandémie et une partie, en tout cas, des interviews après. Donc, si j'avais bien compris, Sophie Bauda, il y a une partie où les gens se sont retenus au début de la pandémie, enfin, pendant le premier confinement, avec notamment des questions parfois éthiques ou des choses comme ça. Et je voulais savoir ce qu'il était advenu des personnes, enfin, plus tard. Est-ce que, par exemple, les personnes qui étaient plutôt réticentes, est-ce qu'elles ont dû s'y mettre, finalement? Parce que, des fois, on n'avait juste pas le choix.
Oui, alors, effectivement, c'est ce qu'on observe avec la deuxième vague d'entretien qu'on a fait, l'automne 2020, où on voit effectivement une évolution en fait, notamment pour les personnes qui sont désintéressées et qui étaient réfractaires à ces questions numériques, pour des valeurs personnelles ou par manque de goût pour les technologies. Et elles se sont rendues compte aussi des avantages qu'avaient les activités financières en ligne. Elles s'y sont aussi mises. Et on observe d'ailleurs dans tous les pays de l'OCDE comme en Suisse une augmentation notamment de la consommation en ligne.
J'ai donné des chiffres qui ne sont pas dans votre étude, mais de la BNS ce matin. C'est vrai que c'est impressionnant. On voit il y a certaines entreprises qui doivent se frotter les mains parce que quasiment du jour au lendemain, ça a beaucoup changé. On parlait de l'argent de poche tout à l'heure. Dans le fond, avant, le cash permettait notamment aux jeunes d'avoir de l'argent sans forcément avoir la structure autour. On n'avait pas forcément besoin d'avoir un compte en banque, on pouvait faire tout ça. Lorsqu'on parle de numérique, et notamment d'argent numérique, il y a toute une structure. Il faut parfois une carte de crédit, il faut parfois, en tout cas, un compte en banque. Est-ce à dire que, est-ce que vous le voyez dans cette étude-là, que les jeunes ont toute cette infrastructure-là, désormais, peut-être de plus en plus jeunes?
Je pense qu'avant, ils l'avaient, mais sous une autre forme. C'est-à-dire que souvent, le versement d'argent de poche, en tout cas dans les premiers temps, de la part des parents, avait de pair avec un petit carnet où on notait les entrées et les sorties. Donc, il y avait parfois cette demande des parents d'avoir une infrastructure qui était peut-être plus matérielle. Donc, ça, sous forme d'un petit carnet où on entrait ses entrées et ses sorties. Certains jeunes utilisent les enveloppes. Donc, c'est une vieille méthode qu'on retrouvait aussi chez les anciennes générations où on a l'enveloppe loisirs, l'enveloppe école et puis l'enveloppe, achat de vêtements. Donc, il y avait déjà une infrastructure, mais qui était effectivement beaucoup plus matérielle. Tandis que maintenant, effectivement, l'infrastructure, elle est virtuelle, elle est en ligne. Ça peut être Twint dont on parlait, ça peut être un accès à un e-banking. Et là, effectivement, les propositions sont nombreuses, mais comme le disait aussi Sophie, on voit que pour certains jeunes préfèrent encore le cash, le matériel, parce que ça leur permet aussi de se rendre compte très matériellement de ce qu'ils dépensent, parce que finalement on parle d'économie digitale, mais ça demande aussi de l'abstraction. Et un auteur qui est un sociologue suisse, Aldo Hassler, disait, mais finalement, quand on avait de l'argent matériel et qu'on faisait une transaction, il y avait ce sentiment de perte parce qu'on donnait un billet, on recevait quelque chose, donc un échange, une réciprocité qui se faisait. Et ce qu'il dit finalement, c'est qu'avec Internet, on a besoin de beaucoup plus d'autodiscipline parce qu'il n'y a pas cette idée de perte. On donne quelque chose pour en recevoir une autre. Mmh. Et donc là, il peut y avoir des risques de moins sentir cet échange, cette perte, qui implique le fait de recevoir un objet, qui demande une autodiscipline pour ces jeunes générations, qui étaient peut-être différentes que pour les générations précédentes, où on est aussi dans une économie de l'abondance. C'est aussi quelque chose d'incroyablement nouveau, de pouvoir des jeunes nous dire, mais on peut consommer n'importe où, être sur les toilettes et acheter quelque chose, être dans son bain et acheter quelque
comme
chose.
Commander sa pizza sur les toilettes.
Voilà, exactement.
Ou aussi à des endroits improbables. Il y a toute cette économie de la livraison qui fait qu'on peut être au bord de la plage, on s'en fiche d'avoir pris à manger, à boire, on peut tout commander en deux coups de pouce, comme ça. C'est intéressant ce que vous dites sur les risques. Dans le fond, ça rejoint ce que disaient certaines personnes aussi à l'époque pour les cartes de crédit. Il y a un côté complètement dématérialisé, même si l'argent, on sait, l'argent liquide est aussi, d'une certaine manière, ne correspond pas à au véritable poids financier qu'il y a derrière. Mais ça pose la question de l'endettement. Lorsqu'on parle enfance ou adolescence, jeune adulte et argent, on a toujours cette crainte de l'endettement. Est-ce que, Sophie Bauda, c'est quelque chose que vous avez vu ou qui est apparu dans cette étude-là?
Alors, pas directement, mais ce qu'on peut dire par rapport au contexte suisse notamment, c'est que l'accès au crédit est quand même bien contrôlé et limité sur le plan légal. Donc c'est vrai que les jeunes qui ont accès, qui peuvent avoir accès à une carte de crédit, ont leur propre nom, doivent aussi avoir les moyens suffisants pour la rembourser. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément moins vu, en tout cas, parce que certains des jeunes qu'on a interrogés sont encore en études, ont peut-être juste à côté des petits boulots pour pouvoir payer leurs études. D'autres sont en apprentissage, donc ils n'ont pas non plus forcément les revenus nécessaires, enfin suffisants. Et ce qu'on observe, c'est que c'est plutôt, en tout cas, ce début-là de l'âge adulte, c'est plutôt de passer par d'autres personnes qui ont les revenus suffisants pour avoir ces cartes de crédit-là et d'utiliser justement les cartes de crédit des autres.
Voilà. Les parents, quoi, en gros.
Les parents, souvent.
Vive les parents. Ça arrive sur d'autres personnes que les parents?
Ça peut être des amis, oui, qui sont peut-être plus âgés et qui ont les moyens, en fait, de pouvoir accéder à la carte de crédit.
On a dit, vous avez pas mal dépioté des résultats, notamment de l'Office fédéral de la statistique. Je crois qu'il y a l'envie, par la suite, d'aller sur le terrain, interroger des jeunes, c'est ça?
Oui, l'idée, ce serait d'aller comprendre comment se forment ces inégalités de pratiques et de compétences. Là, on a pu les observer à l'âge de 20-29 ans, mais on a fait des récits rétrospectifs, c'est-à-dire qu'on a demandé aux jeunes, mais comment ont été vos premiers pas, comment ça s'est passé quand vous êtes allé sur Internet, comment vous avez évolué par rapport à votre consommation sur Internet. Et on aimerait vraiment interroger, donc c'est un projet qu'on a, d'interroger cette fois-ci les adolescents, donc vraiment en identifiant l'adolescence comme la période où on fait vraiment ses premiers pas relativement autonomes. On a son propre argent, les parents sont peut-être encore un peu moins présents qu'avant, et donc de voir finalement comment se créent ces inégalités de pratiques et de compétences, vraiment en identifiant la période où on est censé faire ses premières expériences relativement autonomes, économiques relativement autonomes.
J'ai évoqué l'endettement, il y a peut-être des parents qui nous écoutent et qui s'inquiètent justement qu'avec ce petit téléphone portable on peut faire tellement de choses, il y a plein de choses qui inquiètent parfois les parents, mais notamment peut-être perdre l'argent. Est-ce que qu'est-ce que vous leur direz à ces parents? C'est bon, ils gèrent les jeunes, ou bien attention, faites attention, c'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes?
Ce qu'on a relevé dans une autre étude, c'est que clairement le message qu'il ne faut pas dépenser de l'argent qu'on n'a pas passe, et passe encore de manière extrêmement claire chez les jeunes, c'est-à-dire qu'on avait fait une enquête justement demandant quels sont les messages que vous transmettez vos parents, et ce message-là, il est très très présent chez les jeunes suisses, et ce dont on se rend compte, c'est que les jeunes sont beaucoup plus sages que ce qu'on pourrait imaginer, ce dont on craint. Donc ils ont vraiment, on est quand même dans un contexte relativement protecteur, comme l'a dit Sophie, en termes de loi. Et en même temps, les jeunes sont extrêmement conscients des enjeux et parfois se plantent. Mais les petits crédits, typiquement, ce sont des jeunes qui ont déjà un revenu, qui font des petits crédits. C'est de loin pas accessible à tout le monde. Donc on peut rassurer les parents sur ce point-là.
Cette conscience des jeunes et des adolescents, on l'a déjà sur plusieurs autres études, hein, sur les questions de sexualité et tout. C'est plutôt rassurant de voir que dans le fond, ils maîtrisent quand même peut-être plus qu'on pense qu'ils maîtrisent. Un grand merci d'être venus nous voir toutes les deux ce matin, Caroline Anchaud et Sophie Baudin. Caroline Anchaud, vous êtes sociologue, vous enseignez à la fois à l'Université de Fribourg et à la HESSO Valais, basée à Sierre. Et Sophie Baudin, psychologue, collaboratrice scientifique à cette même haute école en Valais. Bonne suite de journée à vous deux.
Merci pour votre accueil.
Et un grand merci à Jean-Claude Gailly qui était à la technique avec nous ce matin. Demain, nous parlerons des punks. Et oui, des punks, ils existent toujours. Mais ça, c'est pour demain. 11h30, c'est les Decodeurs. À toutes et à tous, je vous souhaite une très belle suite de journée.
Tribu, Julien Magnolet. Infotrafic RTS.
En Valais, le contournement de Martigny est à nouveau ouvert dans les deux sens entre Martigny-Croix et l'échangeur du Grand Saint-Bernard.